Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. François Hollande appelle les grévistes à cesser leur mouvement avant l'euro qui débute vendredi. À la SNCF, les perturbations continueront demain alors que les négociations s'intensifient. On fait le point avec Marie Blondiot dans un instant. Mystère autour de l'arrestation d'un Français en Ukraine, soupçonné par les autorités ukrainiennes d'avoir voulu commettre des attentats en France. Mais la justice française ne confirme pas ces informations. Les précisions à suivre de Marc Crépin. Télé Ramadan, c'est le nom d'une revue qui veut en finir avec les clichés sur l'islam au moment où débute le mois du jeûne. Nous avons rencontré les promoteurs du projet, Mehdi Meklat et Badrouddine Saïd Abdallah, bien connus des lecteurs du Bondy Globe. Il faut savoir arrêter une grève. François Hollande s'impatiente à 4 jours maintenant du coup d'envoi de l'Euro de football. Dans une interview à La Voix du Nord, le président demande aux grévistes d'arrêter leur mouvement car, dit-il, le gouvernement a montré sa volonté de dialogue. Personne ne comprendrait qu'un mouvement dans le rail ou l'aérien puisse empêcher le bon déroulement de l'Euro, poursuit François Hollande. Le chef de l'État inquiet de voir que la grève continue à la SNCF. Alors bien sûr, il y a moins de grévistes selon la direction, 8,5% contre 17% au début du mouvement, mais la moitié des conducteurs sont en grève, d'où les importantes perturbations. Des négociations se poursuivent ce soir et la direction brandit l'argument financier pour faire plier les syndicats, Marie Blondiot.
Le chiffre a été rendu public moins d'une heure après le début de cette dernière session de négociation entre SNCF et syndicats de cheminots. Plus de 20 millions d'euros par jour, c'est ce que coûterait la grève sur les rails selon la direction qui prend en compte les billets non vendus, les remboursements et les substitutions de trains par des autocars, ainsi que le manque à gagner de l'activité de transport de marchandises. 13 jours de grève, cela fait donc 260 millions d'euros. L'argument est habituel, mais il tombe à pic pour la SNCF au moment où elle négocie de son côté avec l'État un geste financier pour compenser les concessions faites à la CFDT et à l'UNSA la semaine dernière. Parmi les pistes évoquées, le financement d'une indemnité de départ à la retraite pour les cheminots ou encore le transfert d'une partie de la dette de la SNCF au budget de l'État. Fin 2015, elle était de 50 milliards d'euros. Dans tous les cas, la sortie de crise serait honorable pour la direction comme pour les syndicats. Manuel Valls doit faire des annonces sur les finances de la SNCF ce mercredi justement. Voilà peut-être une partie de explication au suspense du moment sur l'accord d'entreprise.
Merci Marie Blondiot. Selon les deux syndicats en grève, la CGT et Sudrail, les assemblées générales ont reconduit ce soir le mouvement pour demain. Du côté des raffineries, la tendance est plutôt à la reprise du travail. Depuis ce matin, la grève est terminée sur le site Total de Grandpuits en Seine-et-Marne. Sur les 8 raffineries françaises, il n'en reste plus que 4 encore touchées par le mouvement. En conséquence, côté carburant, Total annonce un quasi-retour à la normale dans les 2200 stations-service que le groupe exploite en France. L'information vient d'Ukraine et elle fait froid dans le dos. Les services secrets ukrainiens, le SBU, affirment avoir arrêté à la frontière polonaise un Français de 25 ans en possession d'un arsenal de guerre. Selon le SBU, cet individu originaire de la Meuse aurait prévu de commettre une quinzaine d'attentats en France à la veille et pendant l'Euro de football. Information non confirmée à Paris, une enquête a bien été ouverte, mais pour le moment, le parquet antiterroriste n'a pas été saisi. On fait le point sur cette mystérieuse affaire avec notre correspondant à Moscou, Marc Crépin.
L'homme n'était pas dans le collimateur des services antiterroristes, aussi bien français qu'ukrainiens. Les agents des unités spéciales ukrainiennes l'ont arrêté parce qu'ils sont très vigilants sur tout le territoire et qu'ils cherchent à interdire aux rebelles du Donbass toute possibilité de se fournir en armes. Selon plusieurs médias russes et ukrainiens, ce Français aurait commencé à parler depuis son arrestation il y a une quinzaine de jours. C'est le chef du SBU à Kiev qui a annoncé qu'il avait pour objectif de commettre des attentats en France, mais personne n'a pu le vérifier. Personne non plus ne peut pour le moment savoir s'il a avoué son implication dans ces projets. Il avait en tout cas choisi une frontière très fréquentée, celle qui sépare l'Ukraine de la Pologne, sans doute avec l'espoir de passer inaperçu. Les lance-roquettes, les explosifs, les kalachnikovs étaient bien dans son véhicule. C'est tout ce qui est avéré pour le moment.
Marc Crépin, 10 ans de prison, le maximum. Voilà la peine requise tout à l'heure contre 4 djihadistes présumés présumé originaire de Strasbourg, jugé en correctionnel à Paris. Parmi les prévenus figure le frère de l'un des tueurs du Bataclan. Ces hommes ont passé 3 mois en Syrie avant de rentrer en Alsace au printemps 2014. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme. Le compte-rendu d'audience de Florence Turm.
On juge des terroristes, on ne juge pas des combattants. D'emblée, le procureur balaie le principal argument des prévenus, un départ en Syrie pour lutter contre le régime de Bachar al-Assad avec des motivations politico-humanitaires. Le droit des conflits armés serait très favorable pour eux, poursuit Nicolas Lebris, mais pas applicable en l'espèce. J'estime qu'ils n'ont pas décrit sincèrement les actes qu'ils ont commis. Il énumère calmement, chronologique et concis, l'arrivée à Alep, la cérémonie d'allégeance, les séances d'entraînement, les missions de surveillance au checkpoint armé de Kalachnikov et cette vidéo tournée sur un tank où l'on entend une voix en français « On va aller fumer des ennemis ». Le procureur doute aussi du caractère définitif de leur retour. Ils ont attendu bien tard pour quitter la Syrie. Tout au long du procès, Karim Mohamed Agad, le frère de l'un des tueurs du Bataclan, avait protesté contre l'attention portée sur lui, demandé le droit à un procès équitable. Les réquisitions ne tiendront compte que des faits et rien d'autre, insiste Nicolas Lebris, ils sont déjà suffisamment graves, assez pour justifier selon lui la peine maximale prévue par le code pénal, 10 ans d'emprisonnement à l'encontre des 4 prévenus regroupés dans le box des barbus pour reprendre la formule d'une avocate, 8 ans pour les 3 autres restés moins longtemps qu'eux sur le territoire syrien.
Florence Turm, le procès doit s'achever demain avec les plaidoiries de la défense, le jugement sera ensuite mis en délibéré. Le Ramadan a débuté aujourd'hui pour la plupart des musulmans du monde entier, notamment en France. Pendant un mois, les fidèles doivent s'abstenir de boire et manger du lever au coucher du soleil. Il s'agit d'une sorte de purification spirituelle où il convient de lutter contre les plaisirs terrestres. Le Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam et sa pratique contraignante fait parfois polémique dans l'espace public. Nous allons parler ce soir d'une initiative originale, téléramadan.fr, une revue que l'on peut commander en ligne et qui vise à déconstruire les clichés sur l'islam. Nous avons rencontré cet après-midi les 2 créateurs de Téléramadan, Mehdi Meklat et Badrouddine Saïd Abdallah, par ailleurs pilier du Bondi Blog. Première question posée à Mehdi Meklat, en quoi consiste concrètement Téléramadan ? C'est donc une revue papier classique ?
Ça consiste à prendre une revue papier, comme vous dites, à prendre quelque chose qui nous paraît archaïque aujourd'hui et d'en faire un objet actuel. Un objet que tout le monde peut lire, où sont présentes de nouvelles écritures, de la poésie, des photographies, du dessin et des histoires.
Téléramadan, c'est une accumulation finalement de textes qui expriment plusieurs regards. On a à la fois des textes proposés par des jeunes écrivains ou comme Wada Sab qui nous a offert un texte, ou l'écrivaine Faïza Ghen ou Jonas Hassan Kemiri qui sont d'autres écrivains un peu plus reconnus déjà. Et on a aussi des reportages de journalistes comme Nassir El Moadem qui a suivi les réfugiés à Calais, qui racontait comment au quotidien ils avaient à vivre leur foi au sein de la jungle.
Donc il s'agit de déconstruire les clichés sur le Ramadan. Alors parlez-moi de ces clichés, Mehdi Meklat.
C'est pas spécialement sur le Ramadan. J'ai l'impression qu'on est aujourd'hui dans une époque où l'islam est devenu une cible. L'islam est devenu un emblème qu'on prend comme ça et on en fait rapidement une polémique. Du coup, les colères sont exacerbées. Voilà, tout le monde s'énerve, tout le monde s'agace, les polémiques enflent. Et du coup, on a besoin de ramener un peu de douceur, un peu de calme, un peu de réflexion. Voilà. Et Téléramadan, c'est là pour apporter cette réflexion, cette pensée. C'est un temps, en fait. C'est un temps où on peut s'asseoir et on peut lire quelque chose.
Et puis, il ne faut pas croire que Téléramadan va être une réaction à tous ces clichés dont on parle déjà tout le temps, à toutes ces unes nauséabondes qui passent de, que ça soit Valeur Actuelle, Minute, mais aussi maintenant Marianne ou Le Point.
Qu'est-ce que vous reprochez en fait à ces revues? Qu'est-ce que vous reprochez?
L'idée, ça n'est justement pas d'entrer dans un cercle vicieux de réaction face à tout ça, mais de proposer des créations aujourd'hui avec Téléramadan, avec des textes. On a beaucoup de textes et c'est des textes qui n'ont pas la même couleur, le même ressort. On a aussi bien des textes objectifs de reportage, mais on a aussi des textes écrits à la première personne qui racontent des expériences personnelles. On a aussi des enquêtes qui racontent des points de vue sur la société d'aujourd'hui. Donc c'est plutôt ça qui nous intéresse finalement.
Alors vous parlez de grand remplacement. Alors c'est évidemment une allusion à la fameuse théorie de Renaud Camus sur le grand remplacement de population. Et vous, pourquoi vous vous appropriez cette notion de grand remplacement, Mehdi Metlat ?
Je pense que les mots appartiennent à tout le monde. Donc grand remplacement, ça peut nous appartenir aussi. Après, il faut voir la notion qu'on met dans grand remplacement, il faut voir celle de Monsieur Camus. C'est-à-dire que nous, notre notion du grand remplacement, c'est un remplacement de génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les médias en général, on invite des experts, des pseudo-philosophes qui ont pour moi des pensées crasseuses et qui sont effectivement des gens qui sont passés d'âge, qui n'ont plus de légitimité à parler. Il y a une formule très simple, c'est que ces gens-là, s'ils veulent nous emmener vers leur mort, on n'ira pas avec eux.
D'une façon générale, comment vous expliquez cette mauvaise image de l'islam auprès d'une partie de la population française, Badrouddine?
Je ne sais pas d'où vient ce truc par rapport à la mauvaise image de l'islam auprès de la population, mais il est vrai...
D'une partie.
La partie de la population facho, c'est pas grave. Mais en tout cas, il est vrai qu'aujourd'hui, dans les cercles médiatiques et politiques, il y a un discours qui est obsessionnel autour de la question de l'islam en France. Alors que l'islam est une religion française qui concerne des millions de citoyens qui sont français et qui sont français et musulmans. Et parmi ces français, pour ceux qui ne sont pas musulmans, ils sont aussi bien concernés par l'islam parce que c'est des citoyens avec lesquels ils vivent ensemble, finalement.
Mehdi Metlat ?
Moi, je pense que les haines sont exacerbées aussi par les journaux dont parlait Badrou tout à l'heure. C'est-à-dire que le rôle des médias aujourd'hui en France est extrêmement important. On doit avoir des médias qui sont pédagogues, qui expliquent aux gens, qui leur racontent des histoires, qui leur racontent des choses aussi peut-être normales. Voilà, on a besoin de parler de l'islam à la première personne, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui.
Donc pour vous, Badrouddine, il faudrait que les médias tiennent compte des mutations démographiques de la société française ?
C'est limite banal de dire ça, mais on le pense vraiment.
Donc ça veut dire qu'il y a remplacement de population pour faire un peu dans la provocation ?
Non, il n'y a pas un remplacement de population. C'est simplement qu'aujourd'hui, il y a une partie des Français qui sont musulmans et il faut savoir les raconter. Il faut savoir les raconter comme on raconterait les chômeurs. Mais en France, on ne sait pas raconter les chômeurs non plus. Et c'est ça le problème. C'est que dans ces médias-là qu'on lit aussi, on se rend compte que les journalistes sont complètement à la ramasse. Heureusement qu'on a des journaux quand même prestigieux qui savent raconter leur époque aujourd'hui, comme Le Monde par exemple, puisque sinon on est complètement à la ramasse, on sait plus raconter nos chômeurs, on sait plus raconter nos musulmans, on sait plus raconter la classe ouvrière, on sait plus raconter les campagnes, et c'est un drame.
Mehdi Metlat, Badrouddine Saïd Abdallah, merci d'avoir été les invités de France Culture ce soir. Téléramadan, à commander en ligne sur téléramadan.fr, c'est 10€ le numéro. On va terminer ce journal avec une affaire bien embarrassante pour le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou a reconnu aujourd'hui, par l'intermédiaire de son bureau, avoir touché de l'argent d'un sulfureux français, Arnaud Mimran, poursuivi en France pour son implication dans une vaste affaire de fraude à la taxe carbone. La somme s'élèverait à 40 000 $, une affaire révélée par le site Mediapart qui commence à trouver un certain écho en Israël, Étienne Monin.
Ce nouvel épisode dans cette affaire confirme l'existence de liens proches entre un Premier ministre et un homme soupçonné d'une gigantesque escroquerie et surtout, il questionne aujourd'hui la légalité de leurs échanges. Ce que Mediapart et le journal israélien Haaretz ont soulevé il y a 3 semaines, c'est une déposition d'Arnaud Mimran, poursuivi aujourd'hui pour avoir mis la main sur plus de 280 millions d'euros, substitué au ministère français des Finances dans une affaire de détournement de TVA dans la revente des droits de taxe carbone. Les deux journaux avaient déjà pointé des liens entre cet homme et le Premier ministre israélien. Il rajoute une déposition du prévenu dans le cadre de son procès, dans laquelle il affirme cette fois avoir versé 1 million d'euros à Benjamin Netanyahou pour une campagne électorale. La date n'est pas précisée, mais le contexte est sensible. Ce type de versement est encadré depuis 2006 dans la loi israélienne, avec un plafond maximum d'un peu plus de 10 000 euros. Le bureau du Premier ministre a nié le montant et le contexte de ce versement, mais il reconnaît un lien financier entre les deux hommes, un versement de 40 000 $ pour un travail promotionnel en faveur d'Israël, à une époque où Benjamin Netanyahou avait quitté ses fonctions politiques. Cette ligne de défense oblige à cette concession. Le parquet israélien s'intéresse à l'affaire, il a lancé un travail préliminaire de vérification.
Étienne Namonin, notre correspondant à Jérusalem. Les intempéries en France, amélioration sur le front des inondations avec la décrue qui s'amorce sur la Seine, même si la situation reste encore délicate en aval de Paris. Le temps demain restera lourd et souvent orageux sur un grand quart nord-est, mais aussi sur le Var. Partout ailleurs, les éclaircies devraient dominer. Les températures maximales sont à la hausse, 18 à 24 degrés sur la moitié nord, 23 à 29 au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.